Donc de nouveau, nous avons temps maintenant pour des retours d'expérience. Comment c'était, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont vos conclusions, voilà, c'est un peu comme des explorateurs. Hein. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez remarqué. Voilà, super intéressant. Hein. Dans la dynamique de groupe, ces retours-là sont super importants. Et aussi des questions éventuellement voilà, sur le discours, quoi, que ça peut vite nous mener loin. Ou sur les instructions, là, s'il y a quelque chose. Surtout si il y a quelque chose qui vous paraît incompréhensible ou incohérent. De manière à ne pas rester coincé ou en contradiction avec ce que vous avez déjà entendu avant, ou même une contradiction dans ce que j'ai dit. Comment est-ce qu'on fait avec deux choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble? Voilà, parce que ça bloque ça. Donc ça, il faut articuler les contradictions. Des retours, ce sera intéressant aussi de savoir qui a remarqué à certains moments qu'en changeant de manière de voir, hein, vous avez bien vu qu'on est resté avec la respiration, mais on la regardait avec une perspective, un narratif différent, une manière d'expliquer la respiration qui changeait. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'expérience de votre moment de méditation? Oui, Corinne.
La respiration qu'on vient de faire, pour moi, ça a été la plus riche, la plus forte que je vis là, aujourd'hui. Et puis je vais quand même. Ça aussi, ça me rage, ça me donne.
Eh bien, ça fait partie le sentier octuple, la parole juste. C'est aussi dans la mesure de nos possibilités émotionnelles et quand on se sent capable, c'est de ne pas laisser dire, c'est de confronter la parole de l'autre. Parce que c'est comme ça qu'on empêche la souffrance de se construire. Et donc, voilà. Et normalement, la pratique de la méditation nous permet aussi de pouvoir absorber plus d'émotions sans être déstabilisé. Hein, quand notre pratique, que ce soit la méditation ou notre pratique spirituelle, doit peu à peu nous permettre d'embrasser toutes les émotions du monde. Et on peut prendre comme exemple Mère Teresa, par exemple, qui a été magnifique dans la capacité d'aller toujours plus loin dans ce qui est l'horreur, en fait, hein, parce que Calcutta, à l'époque et toujours maintenant, en fait, c'est vraiment très, très, très dur, hyper injuste, et elle était elle-même victime de grandes injustices et en danger de mort, et de quand même. Elle incarnait quand même, je vais dire, la bienveillance, la bonté, avec beaucoup de sourire. Donc voilà, c'était que ça, son approche. L'histoire qu'elle a construite pour pouvoir aller vers là fonctionnait bien. Et donc c'est à nous de construire une histoire dans laquelle ben, confronter la parole raciste, par exemple, qui on sait est créatrice de souffrance, fait partie de notre chemin spirituel. Et il faut trouver sa manière. Mais c'est une question... oui, la compréhension de la méditation comme pouvoir... être libre des circonstances extérieures et du coup être non interventionniste, à mon avis, n'est pas une compréhension noble sentier octuple. Donc, de gérer ses émotions, rentrer en soi, rester spacieux, même si à l'extérieur les conditions sont de destruction, je ne pense pas que c'est une mauvaise compréhension du sentier octuple. C'est un mauvais usage de la méditation. Une mauvaise compréhension de la notion de prendre refuge qu'il y a dans le bouddhisme aussi. De prendre refuge en soi et du coup de ne plus être actif dans le monde. C'est pouvoir trouver la sécurité en soi pour aller monter au front.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue et tout. J'avais juste une petite remarque et après je reviens de ce qu'on est en train de parler. La différence, selon moi, entre philosophie et bouddhisme, c'est philosophie, ça reste théorique et bouddhisme, c'est une manière de vivre. C'est ça un peu la différence, je trouve. Ça à part. Maintenant, je reviens à ça, à ce qu'on était en train de dire. Le problème pour moi, c'est un peu, je veux bien être compatible. Montrer ma compassion avec tout le monde, essayer de comprendre, de mettre moi-même dans la situation, est-ce que moi j'aimerais qu'on me dise des choses comme ça? Donc j'évite tout ça, là, voilà. Après, est-ce qu'on ne peut pas savoir ce que le mec il ressent quand on lui dit quelque chose? Même si je m'engage à défendre le bouddhisme, si tu veux, je ne sais pas comment il va le prendre. Il peut être vexé après. Parce que lui, il est convaincu que ça, son point de vue, c'est le correct. Et moi, je suis convaincu que le bouddhisme, il est correct. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça, je trouve. Et c'est ça un peu le.
Mais je pense qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de défendre le point de vue du bouddhisme, mais de sentir quand la parole de l'autre, par exemple, quand il y a besoin de dire, écoute, moi, dans la manière dont tu me parles, je ne me sens pas juste. Par exemple, je me sens agressé, par exemple. Tu vois?
Oui.
Bon, eh ben ça, c'est important de le dire. Et pas de trouver une manière de gérer son émotion, là. C'est important de donner l'heure exacte à l'autre. Ou si l'autre, par exemple, crée de la souffrance à une tierce personne, à une troisième personne, c'est
Ah,
aussi
je vais
important.
défendre la
Voilà.
pierre.
Voilà, tu vois, c'est d'aller lui dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu fais.
Voilà,
Et
d'accord.
voilà, et c'est pas, voilà, c'est sentir toujours avec les quatre nobles vérités ce qui construit de la souffrance et faire ce qu'on pense être le plus avisé pour ne pas laisser cette souffrance se construire.
Parce que je continue, si vous me permettez encore 2 secondes là-dessus, imagine que tu rencontres, et on en rencontre tous les jours, hein, alors en tout cas moi, hein, qui restent têtus, quoi. Tu essayes de parler avec eux et ils restent têtus. À ce point-là qu'à un moment donné, ça me donne tellement d'énergie négative que moi je me sens plus bien dans ma
Oui,
peau.
voilà.
Pas
Mais
que je commence
oui,
à
bien sûr,
hésiter
bien
de
sûr.
ma foi, hein,
Oui.
mais que tellement de négativité sort d'un mec ou d'une personne que moi je me sens plus
Mais
bien.
là, je pense
Alors
que.
là, est-ce que je dois rester plein de compassion ou est-ce que je dois dire barrez-vous, hein,
Mais
moi je me
tu peux rester plein de compassion. Tu peux rester plein de compassion. Mais on verra la compassion vraiment, parce que là, on va pas se focaliser sur la compassion. Mais toutes ces questions-là vont venir. Je ne sais pas si tu seras là la semaine prochaine, mais toutes ces questions-là vont venir sur la semaine prochaine. Mais ici, dans ce cas-ci, être plein de compassion, c'est être plein de compassion pour toi aussi. Et si ça construit de la souffrance, tu t'éloignes. Hein, parce que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, parce que tu vois, tu t'éloignes et tu peux rester plein de compassion pour lui, sachant qu'avec une tournure d'esprit pareille, la souffrance est vécue dedans. Parce qu'une tournure d'esprit aussi fermée fait souffrir celui qui est habité par cette tournure d'esprit. Donc il y a toute une compréhension à avoir qui permet de ne pas devoir quitter la compassion sans forcément devoir aller jusqu'au bout pour convaincre l'autre que son point de vue est néfaste pour lui et pour les autres. On n'est pas, c'est pas du tout l'idée, en fait.
Ah non.
Mais on y reviendra, Darwin.
Je peux juste rajouter là peut-être une chose. Est-ce que tu sais, cette situation, c'est aussi c'est une question de contrôle, en fait, au sens que, du coup, dans le bouddhisme, dans la méditation, aussi on apprend qu'on ne contrôle pas tout à fait toute la réalité, en fait. Et une situation dure comme ça, le racisme, des gens qui nous agressent, en fait, ça nous met en face de cette fait que, en fait, tant qu'on peut s'aimer, on ne peut pas forcément tout contrôler autour de. On ne peut pas faire que le monde s'aime. La nature comme ça, c'est. Je sais pas, en pratique,
Oui.
comprendre le. Ouais,
Ben, c'est-à-dire,
sens.
Après, je voudrais bien qu'on quitte la compassion et qu'on revienne à l'expérience qu'on vient de mener. Mais là, donc, dans ce cas-ci, l'idée, c'est vraiment de soit rester avec son narratif. On voit un narratif en face qui est un narratif de racisme. On sait que ce narratif de racisme construit de la souffrance. On est confronté à ce narratif. Nous, on en a un qui est très différent, qui est plus d'inclusion, par exemple. Eh ben, à ce moment-là, nous, on va exprimer notre narratif, mais aussi, ce n'est pas pour changer le monde. Ce n'est pas pour arriver à un résultat où tout le monde pense comme nous. C'est juste parce que nous, pour être fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs et à ce qu'on pense et à ce qu'on sent juste, on se sent obligé d'exprimer à l'autre ça, et avec bienveillance, dans le sens où lui, ça peut lui amener des informations qui le détendent, parce que le racisme est une situation intérieure très tendue. Donc ça va être sans forcément être là à chercher et à attendre de résultats. Voilà, mais c'est aussi cette recherche de résultats, ça viendra dans les autres discussions. Mais là, j'aimerais bien avoir des retours de qu'est-ce que ça a fait de, si ça a fait quelque chose, de changer de manière de voir la respiration. Est-ce que ça a fait quelque chose pour... Oui. Oui, vas-y Véronique, pardon. Oui.
Ça a impacté vraiment ma propre méditation, les trois étapes. C'est-à-dire, à partir du moment où tu démarres en disant que je respire, j'ai le sentiment, je veux dire je, hein, que je respire, c'est mon organe qui respire, c'est mon poumon qui respire. Et à un moment donné, dans la deuxième étape, tu parles, c'est le corps qui respire. Et là, tout d'un coup, ça a dépassé quelque chose. Comme si je me retrouvais à l'extérieur, et en ayant la sensation de la globalité du corps. Et après, on passe à la nature ou à la vie. Moi, j'ai retenu vie. Mmh. Et là, l'espace s'est encore agrandi, comme quand on évoque cette notion de souffle de vie. Mmh. Ça devient peu concret, en fait. Mmh. Mais ça dit beaucoup. Mmh. Après, la question qui se pose, après j'ai lâché, Et après, la question que je me suis posée, mais finalement, c'est est-ce que les mots véhiculent aussi des sentiments, des émotions, mais par notre vécu. Et est-ce que mes sensations ne sont pas liées aussi à ça?
Est-ce que les sensations ne sont pas liées aux mots? Mais oui. C'est ça, en fait, la question de conception.
Hein?
Au début était le verbe, par exemple, dans le christianisme, et on va l'explorer beaucoup plus en approfondi sur ces 5 semaines. C'est dans quelle mesure est-ce que nos conceptions influent sur notre expérience? Hein, et les conceptions passant, n'étant pas que formulées par la pensée, mais passant par le verbe, par la conception. Et juste pour savoir, qui est-ce qui, en changeant de perspective, a senti un changement dans sa méditation ou dans son atmosphère intérieure? Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour avoir une notion?
Très légèrement.
Ouais. Voilà. C'est pas, merci. C'est pas un exercice facile. C'est certainement pas un exercice facile, mais ça vaut la peine de remarquer. C'est en fait un exercice qui nous permet de remarquer justement que l'approche qu'on a d'une chose, la manière dont on va voir et dont on va s'expliquer une chose, va avoir un impact sur la manière dont on vit cette chose. Et ça, excusez-moi, c'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, les implications de ça, quand on le voit dans son quotidien, quand on le voit dans sa méditation, et puis qu'on projette les implications de ça dans tous les domaines de notre expérience, c'est absolument énorme. Et sur la notion de ce qu'on appelle la réalité aussi, c'est énorme. Donc, c'est des années et des années, une vie, en fait, de réalisation de ce que ça implique.
Appuyer ce que tu dis, Denis, parce que moi, c'est surtout lorsque tu as introduit la conscience où j'étais en douleur physique, progressive avec des disparitions. Quand tu as introduit la conscience, ça s'est complètement libéré et j'étais hors de l'espace, en fait. Ça, c'est vraiment extraordinaire.
Ouais.
C'est encore un pas de plus.
Ouais.
C'était vraiment dans l'immensité.
Ouais. Et du coup, quand on trouve comme ça une manière de voir qui fonctionne en méditation, eh ben, ça vaut la peine d'y revenir. Et on se pose. Et du coup, on se rappelle de cette manière de voir, on la rappelle à notre esprit, on voit de nouveau l'expérience à travers cette manière de voir, Et, alors, c'est pas la petite formule qui marche à tous les coups, hein, mais peu à peu, on pratique une manière de voir. Et on apprend à la rendre accessible, disponible. On peut aller la chercher. Et après, dans notre quotidien, on peut aussi, quand c'est fructueux, aller chercher cette manière de voir et voir telle situation à travers celle-là, plutôt qu'à la manière de voir de « je suis le corps », par exemple. Et on peut, peu à peu, dans ce chemin qui est proposé ici, on peut peu à peu devenir familier avec une certaine quantité de manières de voir qui se propose à différents, qui fonctionne à différents niveaux de notre être et de notre expérience d'exister, et on devient suffisamment familier pour décider que là, je vais voir ça comme ça. On va la chercher, on l'a suffisamment pratiqué en méditation sur le coussin parce que c'est là que ça se pratique le mieux, et puis après ça, on arrive à voir une situation autre avec une manière de voir qui, au départ, n'était pas familière, mais avec laquelle on s'était familiarisé. Et pourquoi est-ce qu'on l'a choisie ? Parce qu'elle nous permet de lâcher prise. Elle nous permet de ne pas construire de souffrance. Dans cette situation, cette manière de voir est celle qui fonctionne de le mieux. Et du coup, c'est la manière de voir qui est juste. Voilà. Juste, de nouveau, pas parce que c'est une vérité ultime, mais juste parce qu'elle fonctionne bien à cet endroit-là, à ce moment-là. Pas plus.
Parce qu'elle nous correspond à ce moment-là.
Et parce qu'elle nous correspond à ce moment-là.
Après, elle changera.
En tout cas, elle ne sera pas tout le temps. Il n'y a aucune manière de voir qui est tout le temps la bonne. Parce qu'on ne peut pas aller au boulot voir son boss en se ressentant « je suis la conscience ». Ça ne va pas marcher. À ce moment-là, on est employé dans telle entreprise et on a ce type de relation. Donc, on se conçoit différemment. Quand on est parent, on se conçoit encore autrement. On a déjà tout un tas de manières de voir et on passe d'une à l'autre. Mais on a, quand on n'explore pas notre expérience en profondeur, on reste à un niveau assez superficiel de notre expérience, auquel il y a déjà plein de manières de voir, tout le temps. Mais avec la méditation, on pose l'esprit suffisamment pour aller ressentir et explorer des choses qui sont très fines de nous-mêmes et qui sont rarement vues et qui nous permettent après ça de nous concevoir autrement, comme un moment de se concevoir comme la conscience elle-même, même de se concevoir comme une conscience non individuelle. Et quand on se conçoit comme une conscience non individuelle, on ne se sent plus menacé par les circonstances du moment. On n'est plus atteignable par la maladie ou par la souffrance dans ce moment-là. Dans notre expérience phénoménologique du monde, à ce moment-là, donc en nous, il n'y a plus l'insécurité, il n'y a plus le manque de liberté, il n'y a plus l'envie que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Ben, d'ailleurs, les choses ne sont plus vraiment là. Hein? Quand on en arrive à un moment comme ça, il y a tout un tas de phénomènes de nous-mêmes qui n'apparaissent plus. Les petites envies, les petits trucs et tout ça, la petite tasse de café, tout, elle ne vient pas à ce moment-là. Les idées qu'on a à propos de nous-mêmes, l'image de nous-mêmes, tout ça n'est plus construit, tout ça n'est plus fabriqué. Hop, mais on ne peut pas vivre là. C'est pas ça l'idée, c'est pas ça le but. Mais de connaître là, et de savoir, et de pouvoir rappeler cet endroit de nous-mêmes. Cet endroit aussi, et je le pointais dans la discussion, cet endroit où ce qui nous fait si différent n'est plus là. À un endroit, on est tous différents et c'est d'une grande beauté. À un endroit, plus on va en profondeur, en fait, plus le mouvement de la pensée, de la conception ralentit, moins on est différent. Parce que moins on est construit. Moins on a une personnalité. Moins on a une individualité. Plus on retrouve un espace commun d'être. Alors tout ça, c'est magnifique. C'est aussi des grands mots qu'il faut remplir après de son expérience. C'est ça qu'on cherche. Et bien sûr, il n'y a rien de nouveau là à croire. Il va falloir tout expérimenter, mener les enquêtes et les expériences qui vont faire que ça devienne notre propre expérience. Une dernière question, un dernier. Oui, Adrien.
Moi, entre les trois méditations successives, j'ai vécu de manière très différente la douleur dans mon dos, et ça a été une transformation intéressante, parce que le fait de passer de douleur à sensation, le fait de changer le mot, m'a permis de décristalliser le fait que la douleur d'habitude, elle est tellement intense que du coup, elle m'accapare. En fait, toute ma conscience est bloquée à cet endroit. Et le fait de pouvoir prendre le mot sensation a fait que j'ai pu voir tout ce qu'il y avait autour dans l'anatomie du dos qui amenait cette chose-là. Donc, du coup, ça devient une information plutôt qu'un problème. Et tout à coup, le fait de pouvoir rester avec fait que le dos va se détendre. Et en fait, ça, enfin, là, moi, ça m'a permis de détendre quelque chose que je n'avais pas détendu depuis longtemps.
Ouais. Et là, du coup, voilà, il y a une pratique, là. Donc, de te poser de temps en temps, si c'est une douleur récurrente, de te poser de temps en temps et juste de t'entraîner à l'avoir comme sensation. Et il y a des fois, ça va marcher mieux que d'autres, parce que ça fait partie, c'est pas du tout linéaire. Mais, et toujours, ça c'est une pratique du coup pour changer ta relation à cette douleur. Mais en même temps, c'est aussi à chaque fois une manière de réaliser plus en profondeur, jusqu'à ce que ça soit vraiment clair, que la manière dont on interprète les choses impacte la manière dont on ressent les choses. C'est ça en fait, c'est ça un peu le gros truc, le buzz là. C'est de voir que la réalité telle qu'on la perçoit est la réalité telle qu'on la conçoit. Ouais, cette unicité en fait de percevoir et concevoir. Parce que ça, alors on n'aura jamais fini d'explorer les implications de ça. D'abord, peu à peu, on fait « Ah ouais, non mais c'est énorme le truc ». Et puis après, on se dit, ah ouais, mais alors du coup, là, ça veut dire que, et là, ça veut dire que, et là, je pourrais voir comme ça. Et à ce moment-là, vient une pratique d'une créativité dans laquelle l'imagination a sa place. Parce que j'y viendrai. Mais l'imagination, c'est quelque chose qui a été banni de notre culture. Et là, on a besoin de la réintégrer. Il y a beaucoup d'imaginaire, en fait, dans l'expérience. Beaucoup d'imaginaire dans l'expérience. Pensez juste à l'idée qu'on a de nous-mêmes. Combien... qu'est-ce qui est indépendant de l'imaginaire dans l'idée qu'on a de nous-mêmes? On voit bien que c'est complètement mixé avec. Et on peut jouer avec l'imaginaire. Et du coup, s'envisager, c'est ça, un narratif différent. Tout ça, c'est un travail de l'imagination. L'imagination, aussi bien que la rationalité et que l'empirisme, la perception par les sens, sont des moyens de connaissance et de construction de la réalité. Donc c'est vaste, c'est immense. Et plus ça avance, moins on comprend. Et plus c'est magique. Et plus, en fait, quand on dit « Oui, pourquoi essayer de tout comprendre et dévoiler le mystère ?» C'est pas dévoiler le mystère, on dévoile pas le mystère. On réalise l'énormité du mystère. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est que toute chose qui apparaît est fantastiquement mystérieuse, magique. Et du coup, le quotidien routinier de se lever et de savoir comme si c'était normal qu'on se lève et qu'on fasse ce qu'on fait, eh ben, ça disparaît peu à peu. C'est magique. Les moments où on rattrape la magie, c'est un peu comme les enfants.